France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un premier Book Club de l'année sous le signe de la passion pour les textes, pour la chimie toujours réactivée des mots de Molière quand ils traversent le corps au présent. Ces mots matière que notre invité mâche, admire, sans les sacraliser, porte sur scène depuis bien des années. Denis Podalydès dit qu'il est annexé à Molière. Alors comment lutter contre cet attachement maniaque tout en rendant grâce au plaisir extrême qu'il trouve à le jouer? De jouer à écrire, il y a un chemin que Denis Podalydès fait dans un livre d'une très grande vitalité et il est notre invité ce jour, 1er janvier, premier lundi de l'année avec Emmanuel Laurentin. Vers 15h50, il profite de la remise de la première Légion d'honneur de 2024 pour relire un roman d'Emmanuel Beauve. Et puis en fin d'émission, bien sûr, on joue au grand jeu des pages musicales pour se quitter en chanson. Voilà, vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Toute l'équipe vous présente ses meilleurs voeux. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans le Book Club. Le livre s'appelle « En jouant, en écrivant ». Il est sous-titré « Molière et compagnie ». Il a paru aux éditions du Seuil, dans la collection La Librairie du XXIe siècle. Vous rendez un chaleureux hommage à son directeur historique. On en parlera tout à l'heure, mais ici tout commence par un questionnaire de lecture. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire?
J'ai dû apprendre à l'école, il me semble. Et c'est très vite, ça m'a passionné, donc j'ai continué à lire à la maison, partout, et puis de plus en plus.
Ça avait quel goût pour vous, puisque vous parlez beaucoup de ce goût des mots dans votre livre? Est-ce que vous vous souvenez ou c'est imprécis du rapport aux mots?
Ah, c'était immédiat. Immédiat, très fort, très passionné, parce que je me souviens de phrases d'adultes qui me disaient que j'étais farci de mots, que je me gargarisais de mots, ça c'était un mot de mon père. Des cousins aussi me le disaient, très très vite on disait que j'avais tout le temps un livre à la main. Enfin, c'est comme si les mots m'avaient précédé et fabriqué.
Vous vous souvenez d'être un enfant lecteur?
Ah oui, oui, oui.
C'est-à-dire?
Tout le temps. Très très vite. Je me rappelle le premier livre que j'ai achevé, il s'appelait Tipiti le rouge-gorge, vous voyez, c'était pas vraiment ambitieux comme lecture. Mais quand j'ai terminé ce livre, j'ai immédiatement commencé un autre. Je savais qu'il démarrait une série infinie.
C'était dans votre chambre,
Ouais, dans ma chambre, partout, mais partout.
Mais c'est-à-dire?
Partout, le salon, la chambre de mon frère, le jardin.
Les parcs, la rue.
Les parcs, là, très vite, j'ai commencé à lire en allant à l'école, c'était le boulevard de la Reine à Versailles, donc c'était tout droit. J'avais même pas besoin de regarder devant moi et je marchais, je suivais le livre qui était devant moi.
C'est vraiment l'image du petit garçon avec un livre à la main.
Du lecteur compulsif, ouais. Ce qui fait que j'en ai oublié 10 fois plus que je n'en ai lu d'ailleurs.
Et ça continue comme ça? C'est-à-dire que si on vous suit comme ça dans une vie de lecteur, c'est vous toujours un livre à la main avec un appétit insatiable?
Oui, et que avec le temps, je vois ça un peu comme pas loin d'être une maladie, une compulsion, quelque chose dont je suis pas vraiment fier. Alors que longtemps, j'étais très fier d'être un jeune lecteur passionné. Je pensais que ça me distinguait, que ça me donnait le fond de culture et que ça me faisait toucher du doigt la littérature, en fait, qui était des valeurs sacrées.
Et vous êtes revenu de ça?
Pas revenu du goût de la littérature, ça sûrement pas. Mais je constate que j'oublie tellement mes lectures, je suis tellement envahi la maison de livres. J'étais très frappé quand j'avais vu le film de Mathieu Amalric, Mange ta soupe, cette femme qui finissait ensevelie sous les livres, qui envahissait son appartement vraiment comme un chancre, ça m'avait beaucoup frappé et j'avais peur de devenir comme ça. Je suis un peu devenu comme ça. Heureusement, j'ai une famille qui m'oblige à laisser certains murs tranquilles.
Est-ce que ça veut dire qu'une des sagesses, ce serait de lire moins?
Ou de relire les mêmes, et de lire quand même, parce que j'ai besoin de savoir ce qui s'écrit. Dans le monde, j'ai besoin de... Alors, j'ai des antennes partout, je lis les cahiers littérature de tous les journaux, même si je les ai pas lus, j'arrive quand même à savoir quelque chose, j'écoute les émissions, j'écoute le Book Club, tout ce qui est littéraire me réveille, c'est le moment du matin, ça.
Qu'est-ce que vous cherchez dans les livres? Qu'est-ce que vous pensez y trouver? Ou qu'est-ce que vous trouvez?
Alors après, vous allez dire, ce jeune homme, j'ai des lapsus, j'ai 60 ans.
Cet homme, la jeunesse.
Cet homme est idiot, mais c'est ça, des mots. Je cherche des mots et je trouve des mots, et les mots font souvent tout mon enchantement. Je cherche des phrases. Je cherche des phrases d'ailleurs très souvent. Une phrase peut m'enchanter totalement. J'allais vous en citer une et puis voilà qu'elle m'échappe.
Et vous les notez ?
Je l'ai fait. Je le fais moi. Ça m'arrive parfois. Je suis sûr, si je prends mon téléphone, j'ai des bouts de phrases, ce sera trop long à chercher. Puis c'est pas, j'aime pas les gens aussi qui gargarisent la conversation, qui se gargarisent de citations. Donc je n'en citerai pas.
Il y a une question de ce questionnaire qui consiste à se demander quel livre aujourd'hui, donc à l'âge qui est le vôtre, Denis Podalydès, vous aimeriez offrir au jeune homme qui avait 20 ans. Qu'est-ce qui serait bon?
Qu'est-ce qui serait bon de lui offrir?
Ouais.
Je sais pas, le premier livre là qui m'est venu à l'esprit.
À vous, à 20 ans, hein, on est d'accord.
Ah, que je m'offre à moi. Ah non, un jeune homme comme moi qui aurait 20 ans aujourd'hui.
Non, c'est trop compliqué, j'avoue, cette question est trop compliquée.
Non, mais.
Vous, qui offrez un livre à vous quand vous avez 20 ans.
Ah, et qui aurait pu me faire gagner.
Ou pas, ou gagner du temps, en tout cas, plaisir, en tout cas, quelque chose de bien.
Je le dis parce qu'il m'est venu à l'esprit avant même de clarifier complètement la question. L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, de Stevenson. Moi, j'aimais les romans angoissants.
À 20 ans.
Oui, je crois que j'aimais les choses angoissantes parce que j'étais quelqu'un qui était un peu pétri de peurs diverses et que quand je la rencontrais à l'intérieur d'un livre, ça me faisait du bien. Et c'est drôle, c'est un livre que j'ai lu beaucoup plus tard. J'avais vu les films qui m'avaient terrifié d'ailleurs, notamment celui avec Spencer Tracy. D'ailleurs, curieusement, plus c'était mal fait et plus ça m'impressionnait. Et c'est un texte que j'ai joué, je suis plein de blaspsus, et j'ai joué plus tard dans une adaptation de Christine Montalbetti. C'est une histoire qui m'a hanté, littéralement. Et donc peut-être ce sera ce livre-là.
Il aurait été bon de le lire avant alors.
Ah ça je sais pas. Oui, vous savez, encore une fois ce livre m'est venu comme ça. Quand je serais sorti de la maison de la radio.
Vous auriez envie d'offrir plein d'autres livres.
Bien évidemment, je pense que c'est ça l'esprit d'escalier. Les rêveries du promeneur solitaire.
Ah oui. Rousseau comme ça.
Rousseau. Ouais.
Mais ça faut être armé 20 ans pour lire Rousseau.
Ah mais à 20 ans j'avais lu ça.
Ah ouais.
Bon, j'avais passé le bac, Rousseau c'était quand même assez connu. Puis les rêveries, c'est ce qu'il y a de plus, chez Rousseau, ce qu'il y a de presque plus simple à lire. Même les confessions, c'est pas très 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 difficile. Puis c'est l'histoire d'un grand paranoïaque, c'est pareil. Et comme ça commence, c'est absolument sublime, cette solitude du personnage. Les entrées en matière des livres de Rousseau, c'est extraordinaire.
Est-ce que vous avez des rendez-vous avec des œuvres? Est-ce que vous savez que tel ou tel livre vous attend?
Oui.
Avec certitude.
Oui.
Par exemple.
Alors, il y a des livres qui m'attendent longtemps, mais je sais que je les lirai là. C'est Vassily Grossman, Vie et Destin.
Ah oui.
Je l'ai acheté il y a 2 ans, mais je n'arrive jamais à le transporter. Il est tellement lourd, et à chaque fois, j'ai des lectures obligatoires qui se substituent aux lectures
Grossman.
Obligatoires. Et donc, je l'ai en point de mire. Mais il ne paie rien pour attendre, je vais le lire, parce que je sais que j'avais écouté Olivier Rollin en parler, et ça m'avait redonné le... J'ai un appétit, une fringale de certains de ses grands romans, comme Guerre et Paix, La Recherche du Temps Perdu. Et donc je sais qu'il y a un moment où je vais fondre dessus comme une
un autre exemple.
Un autre exemple... Alors je voudrais lire les Mémoires du Cardinal de Retz. Je n'en ai lu que par petits bouts, mais j'ai... passion pour le, c'est dans le domaine de Molière, mais le 17e m'intéresse très vivement, les rapports de cours. J'ai adoré lire Saint-Simon. Je n'ai pas lu tout Saint-Simon. Il y aurait aussi celui-là, Michelet, l'histoire de Michelet. Ce sont des grandes sommes, en fait. Des grandes, parce que les livres plus courts, j'arrive à les court-circuiter, les intégrer dans mon circuit.
Vous les lisez quand?
Tout le temps. Très souvent. Le matin. En déplacement. En marchant, dans les ascenseurs, dans les queues de pharmacie. C'est quelquefois très très long dans une pharmacie. Alors là, si j'ai pas de livre, je meurs sur place.
Il y a une autre question qui demande s'il y a une photographie de vous en train de lire.
Oui, parce qu'une photographe, à la fin d'une séance où elle était venue chez moi, m'a accompagné dans la rue et je tirais un caddie et j'avais mon livre devant moi et elle a pris la photo. Et bah, c'est vrai, je suis souvent comme ça, caddie et livre.
Est-ce qu'il y a un statut particulier des livres sur votre table de chevet ?
Oui.
C'est quoi ?
Alors souvent, il y a un livre qui est là, j'en ai oublié la raison, mais il est toujours là et je n'y touche pas.
Et n'y toucherai pas.
Je ne le range pas ni ne l'ouvre. Alors, là, qu'est-ce que j'ai à cette place ? Je l'ai quand même ouvert. Non, parce que je veux le lire aussi. C'est les Évangiles traduits par Frédéric Boyer. Mmh. C'est un gros Gallimard. Et je veux avoir le temps. Donc, je vais peut-être faire un transfert à la campagne pour le transférer sur la table de chevet à la campagne.
Il aura plus de chance.
Il aura plus de chance. Mais je tiens à ce qu'il reste là. Il y a La misère du monde de Pierre Bourdieu, parce que je travaille sur Pierre Bourdieu en ce moment, à écrire un petit livre, une sorte de recueil de souvenirs de Pierre Bourdieu. Et donc, je relis des entretiens de La misère du monde, et c'est une lecture absolument passionnante, mais c'est pavé. Je ne sais pas comment on avait fait à l'époque pour faire un livre aussi lourd. Il est très très lourd. Bon. Et il y a un troisième livre qui est juste au-dessus. Ça a été, je le lisais le soir, comme l'écriture du soir, c'est peut-être, mais et puis soudain je l'ai dévoré. Neige Sino, Triste Tigre. Donc le Triste Tigre est rangé et maintenant dans les rayonnages. Il y en a un, mais là je l'oublie. Je sais plus lequel est tout en haut. Puis il y en a un quelquefois qui est au pied du lit.
Et lui, il a un autre statut encore.
Alors, c'est encore un autre statut. C'est le livre que j'ai emmené au moment du coucher en me disant, je vais lire deux pages. J'ai envie de lire deux pages. Oui, c'était Pierre Reverdy. En vrac, c'est un petit recueil Flammarion d'aphorismes de Pierre Reverdy. Et je croyais que je l'avais jamais lu. Et il est entièrement souligné. Donc, c'est bien moi qui l'ai lu. Mais vous voyez, je l'avais complètement oublié. Mmh. C'est magnifique, d'ailleurs.
On va parler de votre livre à vous, Denis Podalydès, en jouant, en écrivant, Molière et compagnie. Juste après cette chanson, on a cherché une chanson du lendemain de fête avec notre réalisateur Vivien Demeyer, puisqu'on est le 1er janvier. On s'est dit Dalida, mais en plus doux. On s'est dit ce qu'il faut à nos auditoris, un jour comme ça.
Dalida, mais
en plus doux.
Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi. I only feel like living, dancing alone with every song. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter. Jusqu'au bout du
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Molière est le nom d'un irrépressible désir de jouer. C'est un terrain, une aire, un jardin où je me précipite, cours, me dépense, frénétique. Ne sent aucune limite, les personnages sont des catalyseurs, de la dynamite, fait pour exploser. Je n'ai aucun souci de la convenance, du dosage, il me semble que je serai toujours en deçà. Michel Bouquet au conservatoire dressait Molière devant nous comme une chaîne de hautes montagnes dont les sommets resteraient à jamais inaccessibles. Cela ne fit qu'augmenter mon envie d'en découdre. On sent l'exaltation dans le début de votre livre, Denis Podalydès, cette histoire avec Molière qui semble commencer comme une affaire scolaire et constitue aujourd'hui le compagnonnage le plus fertile à vous lire de votre vie d'acteur. Quoi de neuf Molière, disait Sacha Guitry, que vous citez aussi, non sans admettre avoir tout intérêt à défendre l'actualité de ses classiques. Oui, mais en les profanant, en les désacralisant, en les dénudant, tout comme les textes de Molière dénudent, selon vous, toute actrice, tout acteur s'y risquant. C'est des textes que vous avez réunis en les ayant d'abord écrits pour une question d'anniversaire de Denis Podalydès. À la fin, vous citez un texto de Maurice Hollander qui parle de montage, de manière d'agencer cette matière. Est-ce que vous voulez bien, pour commencer, nous décrire le laboratoire de ce livre-là ?
C'est Maurice qui, dès la sortie de mon livre qui était consacré aux répétitions de la Nuit des Rois avec Thomas Ostermeyer, m'a dit « Alors moi j'en veux un autre ». J'étais pris au dépourvu et j'ai repensé à deux textes que j'avais écrits, qui avaient servi de préface. Un de préface et l'autre d'un article dans Le Point, si je pas suis sûr que ça, mais je crois que c'est Le Point. Et je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai ça là en magasin et je pourrais. C'est vrai que en écrivant, j'avais beaucoup de plaisir à écrire ces textes et ça m'avait donné envie d'en écrire d'autres. Et donc je lui ai dit, voilà, je propose ces textes-là. Je vais d'abord les retravailler et puis j'en ai d'autres en tête. Et il m'a dit, bah voilà. Et j'ai commencé à en écrire quelques-uns. Je lui ai soumis, je sais plus, c'était pas tout à fait tout le livre. Il m'a envoyé ce texto. On se voyait, il partait pas de Belgique, il était trop malade. Et c'est le dernier texto. Et quelques jours plus tard, il s'est éteint. Mais le livre était en route.
Vous disiez quoi? Vous disiez, je vais écrire sur Molière, je vais écrire sur ma vie d'acteur en compagnie de Molière, je vais écrire sur le goût que j'ai. Comme ça, insatiable, vraiment très passionné. Enfin, le début de ce livre, c'est vraiment un texte d'amour. C'est quelque chose de très exalté. Vous disiez, je vais écrire sur quoi?
Justement, je savais pas très bien. Je savais que Molière serait l'avisé, mais pas forcément pour, je ne sais pas, dire tout le bien que je pense de Molière ou commenter Molière, donner envie de lire et de voir Molière. Je sais que Molière est là dans ma vie d'acteur à une position fondatrice et de m'interroger au fil de ce que j'écrirai, que ce soit des récits de spectacles mis en scène ou joués, vécus en tant que spectateur ou de lecture, je me donnais toute liberté avec l'assentiment de Maurice hein, qui m'éclairait toujours dans des conversations qu'on avait à la fin par texto assez brèves, mais qui m'incitait à la liberté la plus totale. Donc voilà, Molière était une sorte de viatique pour partir en liberté dans un ensemble de textes qui n'auraient pas forcément un ordre préétabli, pas du tout d'ailleurs, et que j'agencerais au fur et à mesure.
Je dis que le début a l'allure comme ça d'un texte très passionné, mais qui se défend aussi beaucoup de cette passion, ou qui la relativise, ou vous dit, bon, finalement, j'ai vraiment la gueule de l'emploi pour défendre Molière, et c'est pas vraiment la gueule que je préfère.
Oui.
Et donc, vous commencez par dire que c'est un amour qui vous embarrasse un petit peu, Denis Podalydès, pourquoi ?
Un peu, parce que ça a un côté très passéiste, un côté même réac, un peu, de dire, oui, Molière est notre plus grand auteur, vous savez, j'en vois beaucoup des Molières, c'est très difficile à jouer. Et voilà, je voulais surtout pas une attitude de tourner vers le... Même si le passé pour moi est une chose immensément riche et qui évidemment concerne le présent et l'avenir. Mais je voulais pas ça. Donc en fait, je voulais d'ailleurs plus m'interroger plutôt que dire mon fait sur Molière, m'interroger sur le fond de cette passion aussi, ce qu'elle veut dire pour moi, ce qu'elle veut dire pour beaucoup d'acteurs de ma génération, peut-être un peu au-dessus de la mienne et un peu en dessous de la mienne, parce que aussi, finalement, je suis rendu compte, ces grands classiques qu'on voit comme des monuments immuables sont en fait très fragiles. Ils peuvent sortir tout à fait, même non seulement de l'actualité souvent, mais ils peuvent même sortir des bibliothèques, ils peuvent disparaître. Enfin, c'est, si on ne les joue pas, si on ne les re-questionne pas périodiquement, si on ne les met pas en question et en crise même, si on ne s'en sert pas, même de la manière la plus, comme je dis, de les profaner, enfin, ces textes-là, ils sont là pour vraiment qu'on en use et qu'on en abuse même. Ça se travaille. Travailler, ça veut dire, c'est comme un livre dans votre bibliothèque et que vous avez lu plusieurs fois, il est déchiré, il est usé. Mais vous savez que l'œuvre, elle existe ailleurs.
Oui, mais ça aussi, vous dites, bon, bien sûr, j'ai tout intérêt à dire ça parce que la comédie française, parce que sociétaire, oui, j'ai tout intérêt à ce que ça existe. Sauf que, tout en disant ça, vous dites, mais en fait, je veux raconter autre chose. Je veux dire que mon intérêt à ce que ça existe n'est pas un seul intérêt tout personnel. J'ai intérêt aussi, en tant qu'homme du XXIe siècle, que ces textes existent, qu'ils soient vifs, qu'ils révèlent notre propre vitalité, mais cette fois-ci du côté presque des spectateurs et des spectatrices.
Oui, parce que j'ai constaté que les acteurs et actrices, ils sont toujours heureux. Quelle que soit leur provenance sociale, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience théâtrale, sont toujours heureux, à peu près, enfin, si c'est un personnage quand même suffisamment conséquent. On sait que dans Molière, il y a aussi des personnages qui sont moins conséquents, qui font moins plaisir aux acteurs, qui voient aussi le plaisir que prennent ceux qui ont les rôles de protagonistes. Mais généralement, quand on a un bon rôle dans Molière, on est très heureux, on est heureux de le jouer, de progresser à l'intérieur du rôle, de le jouer soir après soir, ce qui n'est pas en soi si évident. Et donc, il y a une énergie dans ces textes-là qui, je crois, enchante littéralement les acteurs et les actrices.
Oui, vous parlez beaucoup de Molière, de la langue de Molière comme un moteur, comme un dynamisme, comme une énergie. Vous décrivez ou bien des représentations auxquelles vous avez assisté, ou bien qu'on vous en ait raconté, ouais, ou bien des souvenirs de répétition. Et à chaque fois, ce sont beaucoup les corps au travail, les corps en train de reprendre, les corps en train de dire, les bouches en train de former les mots. Enfin, on va y venir, mais il y a quelque chose de très physique aussi dans la façon dont vous parlez de ces textes-là.
Mais à chaque fois que moi je l'ai monté, que je l'ai joué, que je l'ai vu à mon sens comme il fallait, enfin, où j'aimais ce que je voyais, il y avait une dépense physique colossale. Je vois pas forcément toujours dans ici, il y a des quantités, généralement des grandes œuvres comme ça, même Shakespeare. Mais chez Molière, souvent dès la première scène, il y a le corps est soumis à des tensions, à un effort. Et il y a une viscéralité, si je peux dire, dans ses rôles, qui fait que l'acteur et l'actrice s'exposent tout de suite. Ça ne traîne pas. Je me rappelle que dans L'Avare, la première scène, hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas, elle vous jette en scène avant même que vous l'ayez véritablement pensé l'acte de franchir le seuil. On vous êtes jeté en pleine lumière, et j'ai des souvenirs comme ça d'acteurs aussi, où les mises en scène, il y a des mises en scène qui ont un peu forcé là-dessus, qui à ce que l'acteur, c'est ça aussi d'ailleurs, souvent à travers Molière, que l'idée, vous savez, très, que Godard disait, résumé en disant, au théâtre, on gueule trop fort. J'aime pas ça, on gueule trop fort. Que les gens criaient. Et c'est vrai que, curieusement, ce sont des rôles où les gens sont montés, sont poussés à l'extérieur d'eux-mêmes, pas forcément avec l'envie d'en faire des tonnes, mais il y a
comme
une
comme si la langue poussait.
La langue, les situations, les caractères. Il y a un secret de théâtre dans ces œuvres-là qui fait que dès le premier mot, le premier mot est souvent un acte théâtral très fort. Il y a les mises en route des pièces de Molière, elles sont d'ailleurs très difficiles, parce qu'elles sont quelquefois en falaise. Elles sont parfois très dures à aborder, comme la première scène de L'Avare, entre les deux jeunes gens. On attend le protagoniste, on a deux jeunes gens terrifiés qui se parlent.
Pourquoi c'est abrupt ?
C'est très abrupt. C'est souvent très abrupt, et c'est difficile d'échapper à ça. Il faut une lucidité très grande pour pas perdre ses forces. Alors, il y a des entrées moins abruptes, l'entrée de Scapin. Enfin, moi, dans la mise en scène, je l'avais souhaité moins abrupte, parce que le rôle, ensuite, ce n'est qu'une ascension continue jusqu'au troisième acte. Et je pense à mon ami Benjamin Laverne qui, dans le rôle, se dépense. Enfin, j'ai même parfois eu peur pour sa santé. C'est, voilà, il y a des rôles comme ça.
Oui, donc vous dites que ça forme ou ça force presque un autoportrait, une manière d'arriver nu. Il y a quelque chose de la langue qui à la fois charge, dynamise et aussi déshabille. Le premier chapitre de votre livre s'appelle Scène primitive et je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre Vincent. Il parle de sa propre scène primitive, lui, avec c'est Molière. Bien.
Un jour, je suis resté dans ma chambre, il y avait la radio et j'ai écouté intégralement le Don Juan de Villars et Sorano. Ça a été une révélation, non pas pour me pousser à faire du théâtre, mais une révélation de ce que c'était le grand art, la grande intelligence de l'humain, ce mélange de comique et de tragique. Parce que le discours de Sganarelle dans cette scène est à la fois totalement ridicule de crédulité et en même temps bourré de l'humanité la plus vive et la plus profonde. Bon. Ça a été une sorte de choc de souvenir, comment dire, physique, sentimental. La musique de Maurice Jarre était aussi un guide extraordinaire pour une après-midi de jeune garçon, vraiment épaté, quoi. J'étais épaté. Et ces voix-là me sont restées toujours. C'est un après-midi marquant. Un tournant de la vie, vous voyez ce que je veux dire.
La voix du metteur en scène Jean-Pierre Vincent, donc on est en 2017 sur France Culture, c'est La Nuit Rêvée, donc il commande des archives au micro de Alban Penaranda. Alors il répète beaucoup ça, c'est une après-midi pour un jeune homme, c'est un virage existentiel, c'est un virage physique. Vous parlez vous-même, Denis Podalydès, au début de ce livre, d'un virage pour un jeune homme, enfin quelque chose qui vous marque à jamais. Alors on a entendu la scène primitive de Jean-Pierre Vincent, quelle est la vôtre ?
Moi, là, si je peux dire, c'est mon frère, j'étais vraiment très petit, et mon frère, pour un atelier scolaire, me demande de jouer Karl, c'est le petit compagnon de Scapin dans Les Fourberies, et il a très très peu de texte, et mon frère m'a demandé d'apprendre une petite tirade pour répéter avec sa camarade de classe, et mon frère plus âgé que moi de 2 ans, frère Bruno, et j'ai pris dans une édition qu'avait mon père le texte, et j'ai découvert ce que c'était que la mise en page d'une pièce de théâtre. C'était des blocs de texte comme ça qui étaient mis sous un chapeau. Le chapeau, c'était le nom du personnage, qui me semblait d'ailleurs, il y avait des personnages qui me semblaient complètement extravagants, Scapin. Je me demandais d'où sortaient des noms pareils. Et Léandre, je connaissais rien de la comédie italienne d'ailleurs à ce moment-là. Mais ça m'a paru, le fait de devoir apprendre ce petit bloc de mots, je l'ai considéré comme une part de gâteau qu'on me donnait, d'un très bon gâteau, et puis j'ai appris ça, et ça m'a rendu très très heureux, et j'ai pas le souvenir de la suite, parce que je crois que j'ai jamais même joué avec mon frère ce petit personnage de Karl, mais c'est la découverte du phénomène théâtre, phénomène pièce de théâtre, ce que c'est qu'une pièce de théâtre, que c'est un texte qui écrit, qu'on apprend, et puis qu'ensuite qu'on restitue. Alors, et ça m'a enchanté, ça c'est... plus enfantin.
Vous marquez même le pas sur le mot acte. Et vous le mettez en capital dans votre texte.
Oui, quelque chose qui est très... parce que c'est la typographie qui me revient d'une édition très ancienne dont je ne me souviens pas du nom de cette édition, où les F, vous savez, étaient faits comme des, les S étaient faits comme des F, donc vivait comme tec comme fa. Et effectivement, il y avait acte 1, virgule, scène 1, écrit en majuscule, je ne sais pas, Scapin, octave, virgule, Sylvestre, point. Et la scène commençait. Et j'ai eu le même choc après quand je entre Fortin, Brass et dans Hamlet, comme ça, quand je lisais les pièces de Shakespeare, l'entrée des... Je le voyais véritablement. Mmh. Je voyais, en fait, ce que j'aimais, c'était passer de la page, de l'horizontalité de la page, à verticalité de la scène, et de l'imaginer, d'habiller la scène. Mais ce témoignage de Jean-Pierre, qui était en plus vraiment pour moi un maître à penser S. Molière, dont j'ai tant aimé les mises en scène
vous
de Molière.
En parlez,
tant aimé
le... Vous en parlez, sous le style parle. De l'intelligence. Dans,
oui, de l'intelligence absolue. Ouais. Absolue. Il a monté un très grand Scapin avec Daniel Auteuil, Eric Elmosino, Philippe Chant, des gens de ma, qui étaient de ma promotion d'ailleurs. Il a monté deux fois Misanthrope, une fois la Comédie Française, une fois Strasbourg. C'est quelqu'un de... Alors cette découverte, d'ailleurs par la radio, moi je l'ai faite pour Racine, ça, je l'ai faite avec Racine. Mais je vois très très bien ce qu'il dit d'être un jeune homme comme ça pris dans son quotidien adolescent et captivé par une pièce de théâtre, ce qui n'est pas du tout évident d'entrer comme ça par l'oreille dans ces pièces de théâtre. Mais j'ai écouté aussi ce donjon Sorano Villa. Et
oui, il parle autant de physicalité que de sentimentalité. On sent bien que ça vient frapper quelque chose du jeune homme, tout en élevant immédiatement vers l'humanité, le grand art,
l'autre maître mot,
la grande intelligence. Comme si ça apparaissait comme ça très clair à ses oreilles. Et la question de l'humanité, ou voir ce que les grandes questions, ou comment Molière peut vous amener vers des grandes questions, vous y arrivez assez rapidement, Denis Podalydès, dans votre livre. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh bien, on n'est pas que sur du commentaire de théâtre ou du commentaire littéraire. D'un seul coup, c'est se demander est-ce que ça nous laisse indemne de faire semblant d'être malade. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être semblant d'être mort sur scène? Enfin, c'est des questions qui, d'un coup, ouvrent à beaucoup plus grand.
Oui, je taille quelquefois à l'intérieur de certaines pièces des petits moments qui me font penser à une expérience de vie. Mmh. Notamment, c'est cette phrase du malade imaginaire. N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort ? Qui est une phrase que je trouve absolument hallucinante, à chaque fois que je me la dis, et ou à chaque fois d'ailleurs que je la dis à quelqu'un, ça suscite un temps d'arrêt, une sorte de suspension où on se représente, on essaie, parce que c'est pas tellement représentable. Et bref, ça m'a fait penser à un ami de la Comédie Française qui joue Molière et qui a été, lui, très malade. Enfin, voilà. Il y a une pièce peut me faire croiser une expérience de vie qui va me ramener à une autre pièce. Enfin, Molière plutôt est ma compagne, en fait, où j'accompagne Molière dans certaines circonstances, ou transporter Molière dans certaines circonstances de la vie. Ce que disait Jean-Pierre aussi, le maître mot de l'humanité, c'est-à-dire vraiment, c'est quand même un théâtre qui révèle l'humanité à elle-même. Aussi bien dans le ridicule que dans le tragique, d'ailleurs.
Mais vous dites, je ne crois pas tant au tragique ou au ridicule de tel ou tel personnage de Molière, je crois au tragique et au ridicule de tel ou tel comédienne ou comédien qui s'empare de ce rôle. Oui. Encore une fois, Denis Podalydès, vous dites, Molière vient réveiller ou révéler les corps qui sont là, qui nous les
Absolument.
Disent maintenant.
Absolument. C'est-à-dire, oui, je très nettement, c'est-à-dire, c'est l'humanité de Benjamin Laverne, l'humanité de Pascal Rénéric dans un Bourgeois Gentilhomme que j'ai monté, et puis de tous les autres, je peux pas les citer tous. C'est ça qui me parle, c'est que soudain, je vois le présent, l'acuité humaine, physique, intellectuelle aussi.
C'est comme ils le disent, comme ils le portent eux ou
comme
elles.
Comme ils le portent eux, ouais. C'est sur des rôles. Je fais le pari que quelqu'un qui voit Benjamin Laverne ou Didier Sandre dans un de ces grands rôles-là, quand il sort de la salle, il sait d'une certaine manière qui est cette personne.
Et pas tant qui est tel ou tel personnage de l'acte 2 ou de l'acte 3.
Non, parce que finalement, en plus ces pièces-là, elles sont canoniques. Alors, quand on s'installe dans la salle, on les connaît déjà. On vient voir l'acteur se mesurer à tel rôle. Il y a un petit côté aussi théâtre japonais là-dedans, sorte de tradition théâtrale. On vient moins voir ce que les enfants, c'est pas la même chose. Les enfants peuvent découvrir une pièce de Molière, mais un adulte moyennement cultivé, il a vaguement entendu parler, mais il va découvrir, en fait, il va découvrir des acteurs et des actrices en proie à leur rôle, déshabillés par leur rôle, révélés par leur rôle.
Et réhabillés d'une certaine manière, puisque les mots ont leur importance. Ici au Book Club, il y a des auditeurs, des auditrices, des lecteurs, des lectrices. On va écouter la question de Stéphane. Il a lu votre texte de Denis Podalydès et lui aussi, il en retient la dimension physique.
Bonjour le Book Club, bonjour Denis Podalydès. On sait le plaisir souverain de dire à la langue de Denis Podalydès. Dans ce livre, Denis Podalydès s'arrête sur la matière quasi organique du texte, qui passe de la bouche du comédien à l'oreille du spectateur. Alors je voudrais lui demander Puisque vous êtes intéressé et vous continuez à vous intéresser aux voix, VOX, dans ce livre, vous êtes-vous imaginé, ou des exégètes, peut-être le savent-ils, quelle voix, VOX, pouvait bien avoir Molière ? Merci.
Merci beaucoup Stéphane pour votre lecture, pour votre question, Denis Podalydès.
Oui, moi je me suis beaucoup posé ce genre de questions, parce qu'évidemment, on ne les connaît pas, ces voix. Moi, j'imaginais que c'était une voix de masque. Parce que ce qu'on sait, c'est que Molière était capable de transformer sa voix de manière impressionnante. Une voix polymorphe, et notamment dans la scène du sac, dans les fourberies de Scapin. S'il met tant d'accents étrangers, tant de personnages divers dans le même texte pour que l'acteur passe d'une voix à l'autre, c'est parce qu'il était lui-même capable de ça. Donc pour être des voix qui soient polymorphes comme ça, il faut qu'elles soient bien dans le masque, qu'elles soient puissantes. Je pense que tous les acteurs avaient des voix puissantes. On mesurait aussi le talent d'un acteur à la puissance à sa portée, puisque c'était pas un théâtre tant physique que vocal. Donc voilà, après, est-ce que c'était plus grave, mais je pense qu'il avait une voix d'une étonnante percussion, d'une étonnante souplesse.
En tout cas, pour rebondir sur la question de Stéphane, il y a dans ce texte-là, le vôtre, un intérêt pour la biographie de Molière qui passe comme ça en courant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les textes, il y a aussi l'homme qu'il a pu être ou dont on le sait, qu'il a été telle ou telle personne. Pourquoi ça vous intéressait d'aller aussi de ce côté-là, Denis Podalydès ?
Parce que moi j'avais appris comme ça au cours privé, comme ça, à Molière, un peu purement organique, qui était sur en province, le chariot de Thespis, etc., honorant la comédie, une sorte de personnage grotesque, un peu. Et la vérité n'est pas tout à fait ça. Enfin, ça a été un intellectuel, un homme extrêmement cultivé, qui était capable de lire Lucrèce en latin, simplement, élève de Gassendi, qui a eu des humanités, comme on disait, une culture extrêmement solide. Donc c'est un intellectuel. C'est vraiment. Et je me rappelle qu'on même Michel Bouquet dénigrait totalement, le mot d'intellectuel, ça le mettait dans un état, un bouillonnement et une fureur qui parfois d'ailleurs il me visait moi parce qu'il savait que j'avais fait des études et je lui avais posé 2-3 questions où je faisais état d'un certain scepticisme sur son anti-intellectualisme. C'était la haine du metteur en scène chez lui. C'était presque mystique, ça. Et donc, Molière était quand même un grand, à la fois, donc, ce grand clown, probablement, ce grand acteur comique. Hein, il faisait vraiment rire. Ça, on le sait, toutes les gazettes. Et en même temps, cet intellectuel qui est capable de lire Lucrèce et qui, dans certaines pièces, met tout à fait en avant
sa pensée,
comme dans Tartuffe, je consacre un texte à cette scène entre Cléante et Orgon, où le personnage de Béral dans le malade imaginaire, ce personnage que la tradition théâtrale appelait du nom un peu péjoratif de raisonneur, celui qui raisonnait, hein, qui embêtait, qui cassait les pieds à tout le monde, qui était généralement un temps où le protagoniste, l'acteur, pouvait se reposer ou faisait des œillades à la salle pour se mettre le public dans la poche, alors qu'en fait, ces personnages, Béral de Cléante, il y en a dans toutes les pièces. Celui qui essaye de ramener le protagoniste à la raison, qui essaye de lui faire entendre un tant soit peu une voix de vérité, qui est pas là, et qui est jamais en plus un dogmatique, qui est curieusement souvent soit un libertin, enfin au sens ancien, un beau frère, enfin quelqu'un qui est dans la famille, mais on sait pas trop ce qu'il fait, un personnage aussi assez fragile, d'ailleurs, et qui est souvent un personnage magnifique. Donc c'est ce Molière-là que j'aime. Et à l'intérieur d'Alceste, du personnage d'Alceste, Alceste et Philinte, il y a les deux postulations, ce personnage bilieux, atrabilaire, bourré d'une saine ou sainte colère, et en même temps l'intellectuel qui pense la société, qui pense les rapports de cour, qui est aussi un moraliste. Enfin,
Et alors, si Molière est là pour dresser des autoportraits des acteurs et que vous-même vous êtes en train de parler de Molière, Denis Podalydès, au fond, vous en pensez quoi alors de cette figure de l'intellectuel ? Parce que ça court aussi dans votre livre, c'est-à-dire qu'il est aussi question de savoir. Je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas que en train de défendre la place des classiques en 2024. Mais aussi de dire ce qu'un homme du 21e siècle peut faire de ces textes-là, ce qu'un homme du 21e siècle peut faire de ces mots, de cette pensée. Ça veut dire que vous vous y retrouvez à cette place un peu singulière qui est à la fois beaucoup de corps, le mot matériel, le mot dans la bouche et la pensée, quoi, l'espèce de visée de la pensée.
Moi, je n'aime rien tant au théâtre que voir un personnage qui pense, qui réfléchit. Et de, pas seulement à travers ce qu'il dit d'ailleurs, mais à travers aussi ce qu'il ne dit pas, ou à travers le phrasé, à travers le rythme qu'il met dans le texte. J'aime me poser la question à quoi pense-t-il, que veut-il me dire, que veut-il me dire le personnage, que veut-il me dire aussi l'acteur, le comédien, la comédienne. J'ai des très grands souvenirs, je me rappelle d'avoir vu Delphine Seyrig au théâtre, dans La Bête dans la jungle, avec Samy Frey, très très longtemps, j'étais adolescent. Et voilà une actrice qui suscitait cette question-là. Je me demandais à quoi elle pense. Je sentais une méditation, je sentais une présence, c'était pas une absence. Enfin, si un peu aussi d'ailleurs.
Oui, mais pourquoi pas ?
Une absence à soi, très légère, mais qui était en même temps une présence phénoménale à la scène. Et je dois dire que ça m'avait totalement captivé. Mais il y avait dans ce spectacle-là, Samy Frey aussi avait une dimension intellectuelle comme ça très grande.
Vous parlez d'absence à soi, il n'y a pas de meilleure transition vers cette nouvelle archive de Denis Podalydès, c'est Louis Jouvet. Ah. Il parle de cette manière justement d'être autre, d'être un peu absent à soi.
Le théâtre n'existe que dans l'acte du théâtre, à ce moment unique où les éléments, les participants, auteurs, acteurs et spectateurs, entraînés, dépossédés d'eux-mêmes, dessaisis de leur caractère et de leur choix, restitués à une sensibilité neuve, à une intelligence souveraine, se fondent et se dissolvent peu à peu les uns dans les autres. À ce moment où ils perdent leur personnalité, où toute faculté consciente et résonante ne résiste plus à la chaleur de l'acte lui-même. À ce moment où, dit le poète français Arthur Rimbaud, « je est un autre que moi ». Par une magie singulière, dont les causes ne sont pas simples, tous ceux qui franchissent le seuil d'un théâtre subissent en eux-mêmes ce transport, cette modification. Un être nouveau se révèle en eux. Des disponibilités, des facultés nouvelles jaillissent et affleurent, les dotant d'une sensibilité et d'une intelligence neuves. À peine passé la porte du théâtre, que ce soit par l'entrée des machinistes ou des artistes, ou que ce soit par le vestibule du contrôle, je ai déjà un autre que moi.
Au théâtre, je sais qu'un autre, acteur, personne et personnage, pas moins vivant, pas moins humain que moi, attend derrière le rideau ou dans la coulisse. C'est pas seulement une machine qui s'engraine et accomplit le prodige, un alter ego va apparaître. C'est alors que quelque chose arrive, non pas tellement une action, un acte, mais une présence. Quelqu'un est entré, soudainement par surprise ou lentement, et l'attente se prolonge avant qu'il ne se décide à parler. Et toute la salle, tous ces gens, assis là dans un espoir insensé et incompréhensible, tout de suite, ont déjà tout oublié d'eux-mêmes. Peu à peu, toute cette salle, qui est là, va se transporter sans heurts sur la scène, passer dans le rêve et se maintenir dans ce sommeil tant désiré, où les spectateurs vacillent et hésitent entre ce qu'ils sont et qu'ils ont oublié et ce quelque chose ou ce quelqu'un qu'ils veulent être et qu'ils sont devenus, et qu'ils ignorent encore plus qu'eux-mêmes. Il y a transport et transmutation, de la scène à la salle, de la salle à la scène. Vous entremêlez vos mots à ceux de Jouvet, Denis Podalydès, dans votre texte « En jouant, en écrivant », juste avant on entendait une archive, qui se répond évidemment, puisque ce texte-là dont vous dites que vous en êtes longtemps tenu éloigné, le comédien désincarné, et que vous y revenez, notamment à la faveur de l'écriture, pour aller voir ce qu'il en dit, Jouvet, de ce jeu est un autre. Pourquoi ?
Je suis retombé sur ce texte que j'avais lu et je me suis rendu compte que je l'avais oublié. Je l'ai lu aussi à un âge comme une sorte de livre de classe, de livre, je le considérais peut-être comme un livre un peu dogmatique. Enfin, il m'avait intéressé, mais sans aller vraiment très loin. Et en écrivant, en fait, ces textes, je suis retombé sur une page où on a l'impression que Jouvet délire pratiquement, où il écrit Alceste, où il est dans une sorte de délire mélancolique, et je me suis rendu compte que c'est pas du tout l'écrit dogmatique dont je croyais me souvenir, mais que c'était un ensemble de textes, parfois mal ficelés d'ailleurs, agencés, pour essayer de sauver quelque chose du théâtre. Et j'ai relu la magnifique préface écrite à Medellin à 3h du matin dans la fatigue. Et c'est
vous insistez d'ailleurs sur la fatigue.
Beaucoup, beaucoup. Parce que je pense que il est mort quand même à 51 ans. C'est un homme épuisé de travail, avec la charge, la triple charge permanente de directeur d'un théâtre, metteur en scène et comédien. Comme Villard aussi, Jean-Pierre Vincent tout à l'heure, ces gens sont totalement épuisés et qui essayent de rassembler les raisons qui lui font encore aimer le théâtre à un moment, 1943, où il est très loin de Paris, il ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer et il est certain, à mon avis, que quand il rentrera, la scène parisienne aura complètement changé et qu'il sera dans un monde autre. Et il sait que le cinéma a totalement modifié le paysage. Et alors, il essaie de rassembler des intuitions qui lui font légèrement sacraliser l'acte théâtral, comme pour se réchauffer d'ailleurs. Je sens cette fatigue et cette mélancolie, c'est ça d'ailleurs qui m'a beaucoup touché. Et à la travers ça, il y a une sorte de... C'est pas un culte pour les classiques, si vous voulez, patrimonial ou... plein de d'arrogance, c'est au contraire un faible espoir, parce qu'il a aimé ça, il a aimé cet auteur-là, il aime ces personnages-là et il les voit comme
des ce moment-là, hein, et ce moment-là, quand on l'entend aussi, il y a une vraie mystique.
Alors,
de ce moment
magnifique,
tout particulier,
c'est il décrit, et dans votre l'archive là, elle est très belle, c'est exactement ce qu'il écrit, le moment où une pièce de théâtre commence, le moment où les spectateurs, mais les acteurs aussi, basculent, comme il dit, dans le rêve, cessent d'être tout à fait eux-mêmes et entrent dans la rêverie collective que développe une pièce, un corps où les uns et les autres s'impersonnalisent ou se dépersonnalisent. Mmh. Et à ce moment-là, dit-il, ils fraternisent. C'est ce moment-là qui est
en dessous de soi.
Oui.
C'est ça aussi, c'est très intéressant, c'est que l'idée de la fraternité ou du partage ne vient pas du fait d'être en possession de soi-même, mais au contraire d'être en dépossession.
Exactement.
De soi-même.
Et ben voilà.
Est-ce que vous diriez, Denis Podalydès, que vous-même vous êtes dans un moment où il faut réchauffer cette idée-là, qu'il faut sauver ce que vous aimez ou pourquoi vous avez aimé le théâtre?
C'est une très bonne question. J'ai pas de vraie réponse.
C'est pas ça, ce texte-là, en tout cas.
J'étais quand même sensible au texte de Jouvet, un peu par identification. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que des jeunes acteurs aujourd'hui n'ont pas du tout la même façon d'entrer dans le métier que moi.
Pourquoi pas ?
Et ça, c'est très bien. En plus, le paysage théâtral, il s'est enrichi dans des proportions que je n'arrive même pas aujourd'hui à dominer. Et le spectacle, le théâtre, le spectacle vivant, n'a probablement jamais été aussi vivant. Donc il y a plein de textes, plein de propositions qui sont transversales, qui fleurissent de partout. Donc il y a pas, c'est pas une inquiétude. Mmh. On va oublier Molière, rendez-nous Molière. Mais c'est l'espoir que, malgré toutes ces mutations, on puisse, quand même, quelqu'un puisse connaître le plaisir que j'ai connu, quoi. Pourquoi pas? Et je me rends compte d'ailleurs que même quand vous avez des jeunes acteurs qui n'ont pas forcément dans leurs écoles travaillé Molière, que quand ils le découvrent, ça leur fait extrêmement plaisir. Enfin, même ils découvrent que c'est encore mieux que ce qu'ils attendaient.
Par ailleurs, moi j'ai eu aussi la sensation en vous lisant que l'idée était aussi de vous dire à vous-même cette flamme-là. Enfin, qu'il y avait un plaisir à les retrouver. On parlait tout à l'heure de la scène primitive de la rencontre avec Molière, mais aussi d'autres moments, à la fois de votre parcours de comédien, mais aussi en allant lire Jacques Copeau, d'aller chercher à cette flamme-là, pourquoi pas se réchauffer, mais on n'est pas obligé de se réchauffer dans des moments où on a forcément froid, où on est forcément mal, où on est forcément inquiet.
Il y a un goût littéraire, j'ai un goût extrêmement littéraire pour Molière. C'est presque ça aussi que je dis. C'était pour moi le spectacle des mots et peut-être le spectacle des spectacles. J'aime les entendre, j'aime les lire, et j'aime parfois les lire à travers ce que j'entends, et inversement. J'aime les acteurs, les actrices littéraires, qui ont une conscience presque matérielle du langage. Voilà. C'est comme ça que j'adore Novarina.
Oui, c'est pour ça, vous le citez, et puis il est là tout le temps. C'est-à-dire qu'on a commencé par parler de la matérialité, de la physicalité du mot, du mot dans la bouche. C'est très présent chez Molière. Ça veut dire que là, par exemple, 1er janvier, à bientôt 16h, si on doit en dire un tout petit bout, le premier qui vous vient à l'esprit, un tout petit bout, une petite phrase, un petit mot matérialité de
Molière. Une phrase que j'adore, mais va-t-elle me revenir ? Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord quelques bons haricots bien gras avec quelques pâtés en pot bien garnis de mouton. C'est pas tout à fait ça la phrase, hein. Mais
c'est où ?
C'est dans la Var. C'est le début, je crois.
Vous pouvez redire le début ?
Il faudra de ces choses dont on... C'est, en fait, il doit faire un banquet pour accueillir sa future femme, Harpagon, l'avare. Donc, il veut donner... il veut que les gens puissent manger quelque chose qui sera tellement étouffe chrétien qu'ils n'auront pas envie de manger davantage.
Et donc, vous pouvez redire le
donc,
début ?
Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord quelques bons haricots bien gras avec quelques pâtés en pot bien garnis de mouton. Mais la fin de la phrase me paraît bizarre, bien garnis de mouton. Bien, c'est pas bien garni de mouton. Oh, là, il y a un auditeur qui est en train de fouiller dans son...
Bah, on lui laisse. Non, mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'on fait des émissions. Merci
voilà,
beaucoup,
j'ai toujours adoré cette phrase. Merci à vous.
En jouant, en écrivant Molière et compagnie dans la collection La Librairie du XXIe siècle au Seuil. Merci infiniment.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Oh là là, une année qui commence avec vous, Emmanuel Laurentin, ne peut pas être une mauvaise année.
C'est ce que vous dites. Ouais, ça fait, c'est la même chose pour moi, commencer avec vous, ça me fait très plaisir.
Bon, c'est la même mission qu'on vous confie pour 2024. Vous devez continuer de suivre l'actualité, comme vous le faites précisément, et à chaque fois ouvrir pour nous un ou plusieurs livres. Donc nous sommes le 1er janvier, et pour vous, Emmanuel, c'est pas le premier jour de l'année, en tout cas pas seulement, c'est celui, chacun ses petites histoires, c'est celui de la première remise de la Légion d'honneur de l'année.
Exactement, Marie, et ça me permet de vous parler d'André Poitou. L'anti-héros de Cœurs et Visages d'Emmanuel Bove, un roman paru en 1928 et republié en 2016 aux éditions Sillage. Emmanuel Bove est cet écrivain apprécié de Max Jacob, de Philippe Soupeau, qui refusa obstinément de publier pendant l'occupation, cofonda le Comité National des Écrivains et mourut en 1945 à l'âge de 47 ans. Son personnage, André Poitou, a réussi dans la chaussure et vient d'être décoré de la Légion d'honneur. Ses parents et amis ont organisé pour lui une petite fête à l'hôtel Gallia. À la soixantaine, il n'a pas de femme ni d'enfant et pas plus de véritables amis. Cette belle reconnaissance sociale, qui est la plus glorieuse de nos décorations, est à ses yeux le moyen de s'en faire. Cette soirée, comme l'écrit Bove, rendait plus tangible sa réussite.
Et on comprend tout de suite à votre ton que ça ne va pas être tout à fait le cas pour le monsieur.
Évidemment, le premier qui l'accueille n'est-il pas une vague connaissance ? Son docteur, qu'il considère pourtant comme son meilleur ami, un second qu'André Poitou avait connu par l'intermédiaire du docteur, était selon Emmanuel Bove d'un naturel méchant et s'employait à mettre au net les défauts d'autrui. L'attitude du troisième à croiser, à venir saluer le décoré, le grec Baladis, dépendait du milieu où il se trouvait.
Franchement, je n'ai jamais été à ce genre de soirée, mais je n'ai pas du tout envie d'y aller. Il me semble qu'il y a une bonne brochette d'hypocrites. Une soirée de décoration à l'hôtel Gallia, ça ne fait pas super envie.
Et oui, et de solliciteurs aussi dans cette ronde entre les convives. Tandis que des employés guettent M. Poitou pour lui demander un coup de pouce lors d'une passe difficile de décoré du jour, guette l'arrivée du sénateur Marchessault, qui sera pour lui le clou de la soirée. Emmanuel Bove dévoile avec acidité la comédie sociale en attendant le sénateur, l'entrée du président du syndicat de la chaussure. Un homme très content de lui provoque un léger remue-ménage mondain qui conduit le directeur de la tannerie qui fournit ses cuirs à la maison Poitou, a qualifié l'honoré du jour d'un « je plains ce pauvre homme qui prend tout cela au sérieux
ouais, ». Très désagréable. Terrible suspense, est-ce que le sénateur finit par arriver ?
Oui, mais il est précédé d'une célèbre chanteuse à la mode, Yvonne Stella, et d'un représentant assez vulgaire d'une marque de chaussures américaine. Tous s'affichent autour de l'élu de la République qui, note Emmanuel Bove, fait semblant de ne pas remarquer l'attirance qu'il a sur les convives. Une fois la centaine d'invités arrivés, des aigris, des envieux, des cyniques, des prétentieux, le banquet peut enfin commencer. très ému, mais ne voulant pas le faire paraître, André Poitou vivait ce moment de gloire en pensant qu'il ne le méritait pas et que ses amis allaient disparaître très vite en le laissant seul. Mais vint l'heure des discours, sommet de cette heure où l'amitié se mêle à la jalousie et où, dans un moment de fusion joyeuse aidé par les vins et les mets, l'honoré devient honorable aux yeux de tous. Quand vous lirez dans les journaux et sur le net la liste complète des nouveaux légionnaires du 1er de l'an, vous penserez peut-être à André Poitou et à cet autre texte du pessimisme bovien et de cette humanité publié après sa mort où il dit « Je n'ai rien demandé à l'existence d'extraordinaire », c'est ce que dit Emmanuel Bov. « Je n'ai demandé qu'une seule chose. Elle m'a toujours été refusée. J'ai lutté pour l'obtenir vraiment. Cette chose, mes semblables l'ont sans la chercher. Cette chose n'est ni l'argent, ni l'amitié, ni la gloire. C'est une place parmi les hommes, une place à moi, une place qu'ils reconnaîtraient comme mienne sans l'envier, puisqu'elle n'aurait rien d'enviable. Elle ne se distinguerait pas de celle qu'ils occupent. Elle serait tout simplement respectable. »
Voilà qui me paraît plus sage qu'une soirée de remise de Légion avec les hypocrites. On rappelle le titre de ce livre, Emmanuel Cœurs Laurentin.
Cœurs et visages, et c'est publié aux éditions Sillage.
On peut réécouter lecture d'actualité sur franceculture.fr. Et c'est l'heure du grand jeu des pages musicales dans votre book club. C'est Armand, notre auditeur, qui propose un extrait d'un livre très mystérieux. Ça s'appelle « Le volcan sous la ville, promenade dans Naples », paru en 1983 et signé Dominique Fernandez. Il est question dans cet extrait de Bacci Soavi e Cari de Carlo Gesualdo, un compositeur du XVIe siècle. Le court poème « Bacci Soavi e Cari » développe l'idée qu'une âme ravie par l'extase d'amour oublie les tourments de la mort. « E pur si more » conclut néanmoins le dernier vers de la strophe. Et pourtant, on meurt. Et pourtant, il faut mourir. Pour exprimer ce retour à la loi fatale, Gesualdo a une trouvaille sublime. Un saut d'octave du ténor sur le « O » de « more ». La voix brusquement monte les 8 degrés de l'échelle diatonique, image parfaite de l'homme saisi par la pensée subite de la mort et qui se redresse dans son lit, les yeux écarquillés par l'horreur. Le cri nu, est impossible à rendre en musique. L'invention du saut d'octave était le seul moyen de tourner cette impossibilité. Nul ne peut entendre ce passage sans sentir ses cheveux se dresser sur sa tête. C'est un des effets les plus puissants de toute l'histoire de la musique. La seule fois peut-être où la mort est faite irruption dans le tissu harmonique pour le déchirer de bas en haut. Les autres morts illustres, que ce soit celle de Sénèque dans le couronnement de Poppée ou celle de Violetta dans la Traviata, sont des descentes en douceur, des glissements progressifs dans le néant, qui apportent une antidote à l'horreur, la consolation d'un mélodieux évanouissement. Gesualdo, lui, dresse la mort tout debout devant nous. Proche du Moyen-Âge, il subit encore la fascination épouvantée des danses macabres. Mais esprit moderne, il l'exprime par ce trait foudroyant d'audace. Par tous les pores de l'amant, jaillit la sueur de l'agonie. Au son cet après-midi, c'était Ludovic Auger à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui pense et prépare ces émissions avec moi. Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Léa Weiss-Grus, Oriane Delacroix, Mathilde Wagman, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Toute cette équipe qui vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, à commencer par passer une belle après-midi sur France Culture.